Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour.
Députée La République En Marche, présidente de la commission spéciale de la loi Pacte, les Gilets jaunes aujourd'hui, 19e mobilisation, 19e samedi de mobilisation. Comment on sort de cette crise ?
Bonne question. Ça fait 19 samedis qu'on essaye d'en sortir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées par le gouvernement.
Chèque, surtout 10 milliards.
Un chèque, mais pas que, si vous m'autorisez de rappeler quand même le grand débat qui s'est terminé il y a quelques jours, avec, quoi qu'on en dise, quand même des centaines de milliers de contributions et de Français qui sont venus débattre, mais aussi une réponse plus sécuritaire du gouvernement avec la loi anti-casseurs, dont on sait qu'elle a créé certains états d'âme au plan politique. Donc trois types de réponses pour essayer de mettre à mal une crise qui est une crise profonde et qui est, comme je le dis depuis un certain temps, une crise qui est certes adressée au gouvernement, qui concerne certes Emmanuel Macron, mais qui est une crise beaucoup plus large du politique, de la représentation et du lien entre nos concitoyens et leur représentation politique.
Et de la justice fiscale aussi.
Et de la justice fiscale, mais je crois que ce serait mal comprendre le sujet que d'oublier aussi les chiffres de l'abstention de 2017. Je ne vais pas tous les refaire, mais nous avons des Français qui, depuis un certain nombre d'années, estiment que les politiques ne sont pas à la hauteur de leurs enjeux, de leurs problèmes du quotidien. C'est la crise que nous avons à affronter ce matin. Et je vais le dire aussi avec force, si vous m'autorisez, je suis choqué, je suis parfois outré par les postures politiciennes des responsables de l'opposition. Je siège très fréquemment en hémicycle, je suis souvent en médias, j'écoute l'ensemble des représentants politiques, des oppositions. Je pense encore à Jean-Luc Mélenchon hier, qui a fait une conférence de presse que j'ai réécoutée avant de venir vous voir. Il le dit aussi clairement que ça, il appelle à énormément de manifestants en ce samedi, il appelle les manifestants à aller manifester, alors même que le gouvernement fait tout pour essayer de protéger les manifestants à la suite de ce que nous avons vécu samedi dernier. Je vais le dire donc très simplement, je pense qu'il est grand temps que les oppositions comprennent aussi qu'elles font partie du champ politique et que l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui est un rejet du politique, est un rejet aussi des oppositions. Et il faudrait trouver des solutions plutôt que d'entraîner les Français dans un danger, dans un risque. Je pense que les postures sont parfois irresponsables. Je l'ai dit, certains parlent d'escalade de la violence de la part du gouvernement. Il faut remettre quand même l'église au milieu du village, l'escalade de la violence qu'on a connue samedi dernier à Paris. Je suis élu de Paris et j'en ai encore beaucoup d'émotions. C'est l'escalade de gens qui viennent pour casser.
Jean-Luc Mélenchon appelle précisément les manifestants à se mobiliser. Il appelle aussi les forces de l'ordre à ne pas tirer contre les casseurs. C'est un 19e samedi de mobilisation avec cette fois les militaires de l'opération Sentinelle appelés en renfort. Faites-vous partie de celles et ceux qui voient un risque de tragédie si les casseurs devaient venir au contact de ces militaires armés?
Je fais partie de celles et de ceux qui ont une confiance absolue dans nos forces de l'ordre. Je fais partie de celles et de ceux qui écoutent ce qui est dit et par le gouverneur militaire de Paris et par Florence Parly hier et par le président encore hier. On va le redire simplement, c'est un faux débat. C'est encore de la politique politicienne de la part de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons des forces de l'ordre qui seront au contact et nous aurons des militaires qui protègent les bâtiments. Jusque-là, rien de nouveau, rien ne change dans la doctrine. Ils n'ont pas vocation à aller au contact si. Et j'ose espérer que ça ne se passera pas.
Olivia Grégoire, ce qui a changé, on l'a vu samedi dernier, c'est que les cordons de policiers qui peuvent être devant les militaires qui eux-mêmes protègent les bâtiments officiels, ces cordons de police et de forces de l'ordre et de maintien de l'ordre, on a vu qu'ils étaient vulnérables samedi dernier. Donc il peut y avoir effectivement des black blocs entraînés qui aillent au contact des militaires.
Faut pas oublier quand même qu'il faudra passer à la fois les policiers et les gendarmes, à la fois les CRS et éventuellement à ce moment-là, une fois passé l'ensemble de ces forces de sécurité, se retrouver peut-être devant des militaires. Vous m'accorderez que si c'est le cas, nous aurions affaire à des hommes et à des femmes qui sont des black blocs. S'ils parviennent à passer les barres à la fois des policiers, à la fois des gendarmes, à la fois des CRS pour aller atteindre nos militaires, c'est la preuve par A plus B que ce sont des factieux et que nous aurions affaire là à des émeutiers.
Est-ce qu'il faut tirer pour autant ?
Écoutez, je pense que on a des forces militaires qui sont largement à la hauteur de leurs responsabilités et qui n'iront pas faire du zèle dans une situation comme celle qu'on connaît. Je demande juste un peu qu'on leur fasse confiance aussi, quoi.
Il y a beaucoup de femmes parmi les Gilets jaunes aux conditions de vie difficiles. Je sais que vous êtes attentive, Olivia Grégoire, à la lutte contre la précarité professionnelle des femmes, le temps partiel, les emplois qui sont évidemment moins qualifiés, les problèmes aussi liés à la monoparentalité, les répercussions que ça a plus tard sur les retraites. Il faut agir vite. Comment ?
Il faut agir vite, on a déjà commencé, c'est toujours difficile de le dire très très vite, mais on a déjà fait des choses. Il y a un vrai sujet chez les femmes, notamment qui n'ont plus d'emploi, c'est comment très simplement on fait garder son enfant ou ses enfants lorsqu'on part en formation ou qu'on recherche un emploi. Nous avons voté une prestation d'aide au mode de garde, 139 euros par mois pour les femmes monoparentales, ça a été voté dans le projet de loi de finances 2017. On en a assez peu parlé, mais je tiens à le rappeler, c'est une politique que mène le gouvernement avec beaucoup de volontarisme, autour bien évidemment de Marlène Schiappa, mais aussi du ministre de l'économie. Nous avons voté au sein de la loi Pacte un amendement très important qui concerne les conjoints collaborateurs, faire en sorte que les femmes d'artisans soient protégées par défaut, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Beaucoup de femmes, de bouchers, boulangers, fromagers se sont retrouvées dans des situations de non-protection. Nous avons voté un amendement avec d'ailleurs les oppositions, comme quoi on est capable de construire ensemble pour protéger ces femmes. Mais vous savez, la société est telle et le nombre de famille monoparentale est telle que je pense qu'il nous faut aller plus fort et je pense même qu'il faut une action spécifique à destination des femmes en situation de monoparentale pour les accompagner à la fois au plan social, économique, pour retrouver notamment le chemin de l'emploi pour celles qui ne gagnent pas assez pour vivre.
Et pour refermer ce chapitre des Gilets jaunes, est-ce que Christophe Castaner joue son va-tout, joue son avenir dans le gouvernement aujourd'hui si la mobilisation devait dégénérer ?
Bon, je pense, pour le connaître un peu, que Christophe Castaner est un ministre responsable. C'est un ministre qui, depuis des dizaines de samedis, est en première ligne. J'entends de ci, de là, tout ce qu'on a dit sur lui cette semaine.
Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il a pris une soufflante à l'Élysée. Il y a eu un grand ménage aussi à la préfectorale. Est-ce que Christophe Castaner est le prochain fusible ?
Qui était dans le bureau pour savoir s'il soufflante ou pas ?
Faites confiance.
Vous savez, non, je pense que Christophe Castaner est très conscient de ce qui se passe.
Est-ce qu'il est le dernier fusible ?
Il a une grande responsabilité aujourd'hui.
Après le ménage à la préfectorale, est-ce que c'est lui le prochain fusible ?
J'aime pas le mot de fusible, donc j'y adhère pas. Je rappelle en plus qu'un fusible, c'est ce qu'on fait sauter quand il y a eu trop de courant. Il semblerait que le courant ne soit pas passé samedi dernier, donc j'ai pas le sentiment que ce soit un fusible. Et ça fait un moment qu'il y avait des sujets à la préfecture de police de Paris depuis les manifestations travail d'El Khomri en 2016, je tiens à le préciser. Je pense que Christophe Castaner sait sa responsabilité, et j'ose espérer qu'il sera à la hauteur de la journée, mais j'ai plutôt confiance en lui, il est entièrement à sa tâche. Et aussi inquiet et attentif à la situation.
On entend aussi que c'est aujourd'hui en province que ça pourrait dégénérer, beaucoup plus peut-être qu'à Paris, on verra bien. Dans quelques heures, Olivia Grégoire, députée La République En Marche, votre gouvernement, votre majorité, avec un gouvernement qui boude en ce moment après que le Sénat a transmis à la justice les cas de trois proches collaborateurs du président Macron dans l'affaire Benalla. En quoi le Sénat aurait-il manqué de hauteur de vue, pour reprendre l'expression hier soir du président Macron ?
Alors, je vais juste faire une incise, si vous m'autorisez, sur cette affaire Benalla, parce que moi j'ai été élu pour faire le droit, pour contribuer à la loi, pour la faire voter et pour la contrôler. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis ni juge, ni avocate, et en l'occurrence je passe mes journées sur les plateaux, c'est toujours un plaisir d'y être, mais à commenter une affaire, qui est une affaire aujourd'hui judiciaire, entre les mains de la justice, et j'aimerais bien accessoirement qu'on puisse, à certains moments, revenir sur le fond de la politique qu'on essaye de mener, et pas uniquement sur l'affaire Benalla.
Pardon, ce n'est pas qu'une affaire judiciaire, c'est aussi une affaire politique.
Politique, grâce au Sénat, effectivement, qui, notamment cette semaine, a pris une décision politique. J'ai deux choses à dire sur cette affaire. Un, je suis assez étonné, parce que pour suivre Gérard Larcher depuis des années, je suis étonné que ce grand garant des institutions et ce grand serviteur de l'État fasse aujourd'hui cette tentative de déstabilisation politique. Je me demande très sincèrement, pour vous le dire en ce samedi matin, dans quelle mesure il n'a pas aussi été un peu otage de Bruno Retailleau,
oui,
de la majorité de droite.
Au départ, paraît-il, pour
il était même assez froid, si on peut être précis, notamment sur Alexis Kohler. Il ne souhaitait pas transmettre ses dossiers, donc je pense que il faut remettre les choses encore une fois en perspective. Gérard Larcher doit être un peu gêné aux entournures quand on connaît son respect et son caractère de garant des institutions. J'ajoute à ça, et je voudrais juste le verser au débat. Vous savez, on a en fait, c'est une très belle alliance de l'ensemble des oppositions pour déstabiliser le gouvernement. C'est une très belle alliance
de circonstances. Par tradition politique, c'est plutôt la gauche qui est allergique au Sénat.
Oui, alors non. Vous voyez, je suis assez d'accord. C'est la gauche qui est allergique au Sénat et la droite qui est majoritaire. Mais là, on a une alliance de circonstances assez forte entre le PS et les LR. Sur la loi anti-casseurs, qui était la loi de Retailleau, quelques semaines avant, et je le rappelais à un sénateur PS hier en plateau, eh bien, il y a eu au rejet massif des sénateurs PS de ce projet de loi LR. Donc, il y a des moments où, quand il s'agit de mettre fin à des manifestations, on n'a pas d'alliance PS-LR, mais il y a des moments, quand il s'agit de déstabiliser le gouvernement et le président, on a une alliance de circonstances PS-LR. Vous savez, je pense que les Français sont pas dupes, faudra un peu de cohérence. J'ajoute aussi, CF, ce que je vous disais, que dans un cadre actuel de rejet du politique, ça n'est pas qu'un rejet de La République En Marche, c'est un rejet du politique, des sénateurs, dont on voit bien que la question de l'utilité du Sénat remonte, l'utilité du CESE remonte aussi dans le grand débat. Moi, je pense que c'est pas forcément malin ni adéquat, pour dire les choses, de crisper aujourd'hui les relations entre le Sénat et l'Assemblée dans un moment tendu politiquement.
Il pourrait y avoir des représailles contre le Sénat lors de la prochaine réforme des institutions, avec cette affaire Benalla.
Je prône la non-violence et donc je me l'applique à moi-même dans le champ sémantique. Je suis ni pour les représailles, ni pour le « tu verras bien ce qui va se passer ». Je crois que les sénateurs sont aussi des parlementaires à part entière et que le respect doit être des deux côtés.
Vous êtes moins menaçante que le président des sénateurs de La République En Marche au Sénat, François Patriat, qui dit que le sort du Sénat pourrait bien être tranché lors de la prochaine réforme. Fin de citation. Olivier Grégoire, vous restez avec nous, député de La République En Marche. On va poursuivre cet entretien dans un instant avec d'autres questions d'actualité. À tout de suite.
France Inter, le 6-9 du week-end.
L'invité de la matinale sur France Inter ce matin pendant 8 minutes encore, Olivia Grégoire, députée de La République En Marche de Paris. Les élections européennes, Olivia Grégoire, la liste La République En Marche devrait être connue, on disait lundi, peut-être mardi, ou du moins en partie avec la ministre Nathalie Loiseau, tête de liste, probablement flanquée de l'écologiste Pascal Canfin. Y a-t-il une urgence à verdir la liste La République En Marche aux européennes ?
On est déjà vert de l'intérieur pour la plupart des parlementaires en marge, donc je crois pas qu'il y ait une urgence à verdir. Il y a surtout une urgence à faire en sorte que les hommes et les femmes, et surtout le programme que nous allons présenter, puissent répondre aux problématiques et aux enjeux qui sont aujourd'hui celui de l'Europe. Et on le voit bien sur les questions écologiques, moi je l'ai vu sur un certain nombre de sujets, encore la semaine dernière au sein de la loi Pacte, on ne peut plus parler d'un certain nombre de ces sujets sans raisonner au plan européen. Donc je pense que, au-delà de verdir, au-delà de la tactique, c'est un impératif politique. Si on veut que les gens se déplacent pour aller voter aux élections européennes, dont on sait que les scores de participation sont rarement éblouissants, il faut que nous répondions et que nous posions les questions et nous apportions les réponses que se posent les Français sur l'Europe. L'Europe doit aujourd'hui, au plan écologique et au plan économique, avoir une vision et être en mesure de porter les politiques
mais
que la France met en.
Quand on voit que dans le projet de la loi PAC, précisément, on autorise aujourd'hui l'exportation de produits phytosanitaires qui sont interdits au sein même de l'Europe, est-ce que vous ne croyez pas que Pascal Canfin a là de quoi avaler son chapeau ?
Alors, je ne crois pas. Malheureusement, c'est toujours le problème des médias. C'est difficile d'exprimer l'intégralité du propos. Sur le problème des phytosanitaires, je pense que nous avons trouvé, typiquement, c'est l'expression d'un compromis qui a été élaboré avec le gouvernement et dont, pour ma part, j'assume totalement la responsabilité. On ne peut pas raisonner en France comme si nous étions seuls en Europe et dans le monde. On ne peut pas interdire la production de pesticides à des industries qui, si nous refusons de les produire en France, iront les produire en Allemagne, en Roumanie ou en Pologne. Donc il faut être lucide sur ces questions, même si parfois politiquement c'est difficile. Donc nous avons très clairement fait deux choses. Un, nous avons mis un stop, un arrêt 2025 à la production de ces produits phytosanitaires. Et en même temps, nous accompagnons la filière pour sortir de la production de ces produits phytosanitaires et se diriger vers des produits de biocontrôle. Donc je pense que, même si c'est parfois un peu complexe à expliquer techniquement, c'est ainsi qu'il faut procéder, c'est-à-dire mettre des dates de fin sur des produits globalement dangereux, sans pour autant couper les têtes. Accessoirement, il y a 2700 emplois directement concernés par la fermeture de ces usines phytosanitaires.
Donc le marché plutôt que l'écolo.
Pas du tout, c'est les deux, c'est-à-dire on bloque à 2025, c'est terminé, donc on leur met une date de fin à ces producteurs et en même temps, on les accompagne avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État sur ces questions-là, pour sortir au plan de la filière vers des produits plus sain. Donc, je pense que c'est une posture extrêmement rationnelle et c'est comme ça qu'il faut avancer sur ces sujets-là, en même temps, écologie et économie et pas l'un contre l'autre.
Pour parler de la loi Pacte, en rappelant que vous êtes la présidente de la commission spéciale de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, la loi Pacte qui arrive au bout de son marathon législatif, c'est un peu touffu, hein, il y a un millier de pages, je crois, à digérer avant de comprendre quelques articles de loi de ce projet de loi. Comment faire comprendre aux PME que cette loi est désormais faite pour eux, pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME? Il va y avoir un service après-vente, comment ça va se passer?
Alors déjà, merci de présenter la loi comme ça. C'est un texte qui, contrairement à ce que j'ai pu entendre, n'est pas fourre-tout, mais un texte fourni. Je vois des entrepreneurs et des entrepreneuses au quotidien. J'aime bien raisonner en creux. Si nous avions fait un projet de loi après 2 ans qui ferait 10 articles pour essayer d'améliorer l'écosystème économique du pays, on m'aurait rayonné à juste titre. Ce texte est ambitieux, il est donc lourd puisqu'il adresse tous les stades de la vie de l'entreprise. Une loi, et merci de poser la question comme ça, commence à vivre, non pas quand elle est présentée en Conseil des ministres, non pas quand elle est votée en hémicycle, ça n'est pas encore le cas, hein. Je vous rappelle qu'il y a la lecture définitive au mois d'avril ou mai. La loi commence à vivre le jour où elle est votée. Donc cette loi, qui a quand même déjà 2 ans de travail derrière elle, va commencer à vivre à la fin du printemps, et ensuite l'ensemble des parlementaires iront sur le terrain faire ce qu'on appelle le service après-vente pour expliquer aux entrepreneurs comment on se sert de ces dispositifs, comment on allège les seuils avec cette loi et comment ils peuvent en bénéficier, et surtout, comment les dispositifs d'intéressement et de participation peuvent être activés pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. C'est un sujet majeur qui est au cœur de la loi Pacte.
C'est différent selon qu'on travaille dans une grande entreprise, une PME.
Aujourd'hui, c'est très différent. Notre objectif, c'est de faire en sorte que chez les artisans, les commerçants, il y ait plus d'intéressement, plus de participation dans les petites entreprises.
À propos des entreprises, l'âge minimal de départ à la retraite sera-t-il maintenu à 62 ans, puisque pas mal de propos contradictoires ont été tenus cette semaine au sein du gouvernement. Finalement, vous y comprenez quoi?
Moi, j'écoute un homme dans ces débats et dans ces polémiques. Il s'appelle Jean-Paul
Delevoye.
Ça fait un an que les relations et les réunions, d'après ce qu'on en dit, sont plutôt intéressantes, du moins calmes, et se déroulent dans le respect de chacune des parties prenantes. Je voudrais qu'on laisse Jean-Paul Delevoye continuer son travail. Je voudrais juste rappeler une chose qu'on n'entend pas assez souvent. Il y a des années, c'était une urgence financière et économique qui nous contraignait, je me souviens 2001, le rapport du COR, Conseil d'orientation des retraites, qui nous contraignait à devoir réformer les retraites. Là, nous avons un gouvernement qui est moins dans l'urgence financière, il y a moins de sujets d'équilibre absolu au plan financier. C'est une réforme qu'on veut faire pour plus de lisibilité, 42 régimes c'est plus possible, plus de simplicité et surtout plus de justice sociale, notamment pour les femmes.
Un mot sur le projet de loi, justement, parlons des femmes, sur le projet de loi santé, il est prévu un rapport donc sur l'accès effectif à l'IVG, qui remet en cause la clause de conscience mise en avant par certains médecins. C'est une affaire compliquée, non?
C'est une affaire certes compliquée. Ça a été voté nuitamment, aux alentours de 4h du matin, ce texte. Il me faudra quelques heures aussi pour le relire. Et là, c'est pareil, vous savez, je crois que la confiance est importante. J'ai quand même confiance en Agnès Buzyn, que je connais et en tant que médecin et en tant que femme. Et vous m'autoriserez à ne pas être trop inquiète. J'ai confiance en elle et en sa perception du sujet sur ce sujet-là.
Merci d'être passé ce matin dans les locaux de France Inter, Olivia Grégoire.
Merci à vous.
Députée La République En Marche de Paris. Merci et bonne journée.
Bonne journée aussi.
Dans un instant, la revue de presse.